à CFNJ, Lanaudière et compagnie.
Édition du 1er de ce merveilleux mois de mars. Au menu aujourd'hui, on aura bien sûr les actualités avec le collègue Jacques Plante. Isabelle Perrault reprend sa chronique mensuelle le premier dimanche de chaque mois. Guy Brault, il est président des producteurs acéricoles de Lanaudière. C'est le temps des cabanes à sucre. Extrait de l'entrevue de Pierre-Luc Belle-Rose, maire de Joliette, qui nous parlera de deux dossiers en particulier. On parlera aussi du monastère démonial qui a fait la une du Journal de Montréal jeudi avec un des entrepreneurs, André Saint-Martin. Vous allez voir, on fera un bilan du dossier. Franche Chapdelaine et sa chronique et de la grande visite à CFNJ cette semaine, Charles Milliard, Bernard Drainville et Christine Fréchette. Pas pire pour une petite station, hein? Bravo les gars! Mesdames, messieurs, bonne émission!
Voici votre animateur, Michel Arnois.
Bon dimanche matin, madame, monsieur. Merci de nous écouter et d'être au rendez-vous. Écoutez, vous êtes réveillé en pleine nuit avec une alerte Amber. Ça dérange le devoir conjugal, pas à peu près, ça, moi, vous dire. Hein? Oui, c'est ça. Bon, OK, on en parlera. Prédateurs de Joliette qui ont fait plaisir à leurs partisans au dernier match local en s'imposant au compte de 4-1 sur le Prime de Laval. On a eu une cérémonie où on a rendu hommage aux joueurs de 20 ans qui en sont à une dernière saison dans la Ligue. Et les Prédateurs vont compléter leur saison sur la route avec deux affrontements contre le Titan à Princeville. Et ça inclut un match ce dimanche à 14h30. Alors, si vous voulez aller faire un tour à Princeville pour encourager les Prédateurs, allez-y. Je retrouve à l'instant mon vieux chum, Jacques Plante.
Lanaudière et compagnie. Actualité. Voici Jacques Plante.
Jacques Plante, bon 1er mars.
Hey, merci, je suis assez content qu'on se débarrasse de février, mon chum. Là.
Oui, il me semble que c'est le mois le plus difficile.
Il a été rough. Il est court, mais... il a été rough, celui-là. Hein. C'est de la neige ou du froid, puis des fois, on avait le doigt aux deux, là, méchant. Hein? C'était assez spécial.
La beauté, c'est que les cabanes à sucre ouvrent ce week-end.
Et ça commence à sentir bon à penser. Là. C'est... Ah, ça va être le fun, on va en reparler, c'est sûr. Là, je vais te parler d'école, mon cher ami. La ville de Joliette qui devra investir massivement pour la construction des infrastructures nécessaires à l'implantation d'une école primaire dans le secteur de la rue Saint-Pierre-Sud. Pas tellement loin de nous autres, là, finalement.
Non.
On attend la conclusion de l'entente de partenariat entre, évidemment, la ville et le Centre de services scolaires des Samars. En entrevue à CFNJ Nouvelles, le maire de la ville de Joliette, Pierre-Luc Belle-Rose, précise qu'il y aura des travaux connexes prévu dans cette entente-là.
Parle en centaines de milliers de dollars, peut-être en millions de dollars, là, quand on compte la réalisation là, de toutes ces infrastructures. Il faut comprendre aussi, dans cette entente de partenariat-là, il y a d'autres projets qui viennent là s'ajouter. Je pense notamment au bassin de détention qui est réalisé du côté là de Thérèse Martin sur la Douceur. Donc, on vient ajouter aussi, lorsqu'on ratifie ce genre d'entente-là, de part et d'autre, on vient ajouter des éléments là pour être, je vous disais, des bons partenaires.
Il embrase l'agent Pierre-Luc, hein? Absolument. Ben, Pierre-Luc est le conseil municipal, oui. Il brasse des grosses affaires. On parle de ça, le maire de Joliette avait tenté de brasser la cage du ministère des Transports.
On en a parlé, oui.
Mobilité durable, là, pour la fameuse route 343, là. L'état de la route, pour ceux qui passent dessus, savent très bien de quoi on parle. Il n'y a pas eu de réponse encore du MTQ. La seule réponse obtenue est à l'effet, écoutez bien celle-là, là, je t'ajoute ce matin, on est dimanche matin, les amis, que le ministère ne va pas réaliser de travaux de nivelage ou de pavage sur le tronçon qui est sous sa responsabilité, soit dit en passant, parce que la vitesse permise est sous la barre des 70 km/h.
Et
frappez-moi.
Ça, et automatiquement, ça devient sous le coup de l'administration municipale.
Municipale. Hein?
Quel...
Ah non. Écoute.
Bon, un autre dossier qu'on a surveillé de près, c'est évidemment tout le dossier de l'industrie forestière, Jacques, qui est aux prises avec les tarifs imposés par qui tu sais, là, le Grand Orange.
Oui.
La redevance annuelle en vigueur depuis 2013 est abolie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et l'argent va être investi dans les scieries. Le ministre des Ressources naturelles, Samuel Poulain, croit que cette mesure-là va empêcher la fermeture et les pertes d'emplois. Mais dis-moi, ça va aider.
Ben, c'est ça.
Bon. Puis par ailleurs, le gouvernement fédéral accorde, lui, de son côté, 500 millions de dollars pour soutenir le secteur forestier. Ça, c'était attendu. Attendu par les scieries.
Exact.
Les entreprises qui peuvent donc présenter des demandes pour obtenir des subventions pour augmenter leur productivité, diversifier leur marché ou lancer des projets de construction verte. Cette somme fait partie du 1,2 milliard qui avait été annoncé au mois d'août dernier.
On avait eu M. Champeau qui nous l'avait dit à l'émission qu'il attendait là, de voir, tu sais, comme on dit vulgairement en politique, que les bottines suivent les babines.
Et, on vous le rappelle, là, le bois d'œuvre, c'est toujours visé par les droits de 45
%. Exactement.
Plus un tarif supplémentaire de 10 % qui est annoncé en octobre.
Oui, c'est ça.
Alors, ça fait,
mal. Si on dit que ça va être contesté, ben le temps que ça se fasse, là, il y a le droit au moins à 150 jours, quelque chose comme ça. Ils ont des règlements aux États-Unis, m'a dit de quoi, des fois, ceux qui ont écrit ça. Là. OK, on enchaîne.
On va rester dans le Nord. Tiens.
Oui, on nous fait signe d'enchaîner. Nouveau Monde Graphite, tiens, fait l'acquisition du site industriel et des installations adjacentes à son terrain à Bécancour. On salue les gens dans ce coin-là. On a des auditeurs qui
beaucoup,
nous écoutent dans ce
oui,
coin-là.
Oui, oui.
Cet achat permet à la société de déployer la première étape de ses opérations de raffinage afin d'honorer un contrat avec Panasonic, mesdames, messieurs, portant sur un volume de 13 000 tonnes par année de matériaux d'anode. Ça comprend aussi, comme je disais, une installation de 22 000 mètres carrés, une zone dédiée à l'entreposage et aux activités logistiques, ainsi que des raccordements aux principales infrastructures industrielles. Et du côté de chez Nouveau Monde Graphite, on affirme que le site a une configuration idéale pour le projet de développement en deux étapes des usines de matériaux de batterie. On est du côté de Bécancour. Alors, ça continue, oui. Hein, ça avance le dossier.
J'aime ça qu'on suive des dossiers comme ça parce que ça permet de voir l'évolution.
Oui.
Il y a des travaux d'urgence qui vont être effectués au presbytère de Saint-Cuthbert. On salue les gens là-bas. Et ça, c'est grâce à un soutien de 320 000 $ du gouvernement du Québec qui est remis à la fabrique de la paroisse Saint-Cuthbert. Il y a des marguilliers qui vont être contents.
Oui, puis ça sent de plus en plus élections. Hein? Le gouvernement du Québec trouve de l'argent tout d'un coup.
Avant, quand on annonçait des routes ou des réfections de presbytère, ça sentait les élections. Vous avez raison.
Et là, on ne sait pas. Mais les bonnes vieilles recettes, ça marche toujours. Michel, la preuve, je travaille encore avec toi.
les travaux visent la restauration des cheminées, le rejointement, l'étanchéisation de la maçonnerie, ainsi que la stabilisation des fondations. On se rappellera qu'en 2023-24, il y avait eu également un montant de 360 000 $ qui avait été octroyé à cette même fabrique.
Mm-hmm.
Alors, si on fait le total, ça fait 680 000 beaux dollars pour la paroisse de Saint-Cuthbert. Alors, bravo.
Et souvent, ces édifices-là, c'est patrimoine.
Oui, oui. C'est à cause de ça, d'ailleurs, parce que le presbytère de Saint-Cuthbert est classé en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Et ça, depuis février 1980.
Tu vois, hein, je manque pas de culture.
Là. Ah, vous avez une connaissance...
C'est un homme d'église.
Ecclésiastique. Oui, c'est impressionnante, monsieur le curé.
On s'en va du côté de acquisition d'entreprise. Ces matériaux Pont-Maçon sont des gens de Salaberry, de Valleyfield, qui se portent acquéreurs de trois points de vente des quincailleries Rivet et Fils.
Oui.
Des quincailleries de chez nous, dans la Naudière, à savoir celle de Saint-Charles-Borromée, Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-de-Matan. Matériaux Pont-Maçon indique que cette transaction, ça s'inscrit dans une stratégie, vous l'aurez compris, de croissance et de renforcement de présence en région. L'entreprise familiale Rivet et Fils affirme que la décision de vendre, ça ne doit pas être facile quand tu décides de vendre, hein? C'est pas toujours évident, mais ça découle d'une volonté de passer le flambeau à une organisation qui saura poursuivre le développement. Ça, c'est très bien. La transaction va être complétée à la fin du mois prochain et au terme de ça, Pont-Maçon va maintenant exploiter 12 succursales et on emploie quelque chose comme 600 personnes du côté du Québec et en Ontario.
C'est pas rien.
C'est très bien.
Oui.
On s'en va du côté de la Chambre des communes, le Bloc québécois qui persiste et signe. On parle du projet de loi C-15 sur la mise en œuvre du dernier budget qui brime, selon le Bloc, les droits des citoyens. C'est qu'il prévoit la mise en place, ce fameux projet de loi-là, là, d'un processus d'accélération des grands projets nationaux. C'est M. Carney qui a sorti ça. Là,
oui, le fast-track, comme on dit.
C'est accélérer les choses, mais que ça va permettre d'outrepasser certaines lois, notamment en environnement. Là-dessus, Michel, on peut peut-être écouter le député de Berthier-Maskinongé. Il s'agit de Yves Perron, qui questionne, lui, l'empressement d'Ottawa à permettre la réalisation, notamment, du projet de TGV.
Comment on peut retirer l'obligation d'études d'impact sur les milieux? Moi, je pense pas qu'il y a des bonnes raisons. Il n'est pas si urgent que ça, là. Premièrement, un TGV en Amérique du Nord, on est déjà en retard, là. Fait que c'est pas comme si on voulait être en même temps que tout le monde, là. Ça prendra 5 ans de plus, c'est pas grave, ça me dérange pas. Ça prendra 2 ans de plus, ça prendra 3 ans de plus, ça prendra 6 mois de plus, tout dépendant de ce qui se passe. Mais je pense qu'il est important de préserver les droits de nos citoyens.
Voilà, M. Perron, Yves Perron. De son prénom. Vous savez que la sauce à spaghetti dans Lanaudière, ça suscite tout un engouement.
Ah oui?
Vous, votre sauce favorite, c'était la mienne ou celle de votre mère?
Je dois dire que la tienne n'est pas méchante pantoute. Là. Je suis très franc, là.
L'entreprise Cuisine du domaine de Tercey vient de faire une percée dans 300 épiceries et boutiques partout au Québec.
Hey, c'est bon.
Et le gars comme ça, Patrick Noël de son nom, lui a toujours voulu commercialiser à grande échelle la sauce à spaghetti de sa mère.
Ah!
Oh. C'est là que ça a commencé son histoire. Et là, il voulait réaliser ce projet-là sans emprunter puis sans achaler le gouvernement. Alors, il y avait une cabane à sucre qu'il administrait et il versait dans le prêt-à-manger. Et pendant des années, bien, la sauce, ça se vendait beaucoup à la cabane à sucre.
Okay.
Et c'est comme ça qu'il a commencé. Et les ventes en ligne ont explosé. Et durant la pandémie, il y a eu un succès sans précédent. Et il a décidé d'investir 1 million dans la construction d'une usine de production. Et là, écoutez, le produit se vend aussi bien en Abitibi qu'à Gatineau et que partout dans Lanaudière. Ça s'appelle Cuisine du domaine, c'est à Tercey, et c'est dans 300 épiceries à travers le Québec. Ben, bravo!
Et tu me donnes la faim, là.
Hein, c'est vrai?
Une bonne sauce, ça, spaghetti. Un bon spaghetti, comme on dit.
Moi, dire, des fois, là, je prends même pas de pâte. Je prends de la sauce.
Juste la sauce.
Hein? À cuillère.
Oui, je le sais. Puis c'est vrai ce qu'il raconte, les amis, parce qu'à un moment donné, on était dans son studio chez lui. Moi, j'avais juste le plat de pâte, puis lui, il avait gardé la sauce.
C'est pour ça que vous êtes gros comme un clou.
Oui, exactement.
Voilà. Merci beaucoup, Jacques-Tom.
Bonne fin de journée, salut.
Dans un instant, on va retrouver la très dynamique et l'infatigable. Laquelle? Isabelle Perrault.
Le Super Radio Bingo de CFNJ, c'est rassembleur, amusant et payant. C'est toujours 5 000 en prix avec les trois jeux, chaque dimanche à 10h05. Et pour gagner, il faut jouer! As-tu ta carte? Bingo!
Voici les noms de quelques dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ. À Sainte-Mélanie, Marché Tradition Beaulieu. À Sainte-Julienne, Dépanneur Ultramar. Dépanneur Couchetard. Dépanneur La Porte-Montcalm. À Radon, Dépanneur Radon, Le Marchand du coin. Dépanneur Servie Express. À Tercey, Marché Tercey. Entrelac, Dépanneur Entrelac. À Notre-Dame-de-la-Merci, Dépanneur Amérique 125. À Saint-Donat, Dépanneur Bonissoir Oasis. À Sorel-Tracy, Dépanneur Bon Voisin. Dépanneur Guylaine. Liquidation Guertin. Club Vidéo Saint-Gabriel. Magasin Général Sorel. À Massuville, Dépanneur SG Bardier. À Saint-Ours, Marché Tradition Arpin et Fils. À Contrecoeur, Marché de la Picoleuse. La liste complète des dépositaires des cartes du Super Radio Bingo de CFNJ est à cfnj.net et sur l'appli CFNJ. 18 ans et plus, le jeu doit rester un jeu.
Confiez votre véhicule à des pros de confiance. Chez Lustre Auto Saint-Félix, on redonne l'éclat d'un véhicule neuf grâce à notre gamme complète de services. Lavage intérieur et extérieur, cire rapide lustrée, traitement aquapelle longue durée, restauration des phares et bien plus. Un service professionnel, des prix compétitifs et la satisfaction garantie. Venez nous voir au 4164 rue principale à Saint-Félix. Lustre Auto Saint-Félix, bon service, bon prix, puis un char qui brille.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. SonXPlusJoliette.com.
Entreprendre en Matawini. Une présentation de la MRC Matawini. Voici Isabelle Perrault.
Isabelle Perrault, deux semaines consécutives, on va y prendre goût?
Oui, hein, c'est le fun à chaque dimanche comme ça. Effectivement, on pourrait y prendre goût.
Je ne sais pas quel chapeau vous allez prendre, mais je sais que c'est la semaine de relâche qui commence demain. Et ça, la semaine de relâche, Madame la préfète ou Madame la présidente de la table des préfets ou Madame Perrault, point à la ligne, vous avez des suggestions pour vos ouailles.
Mais oui, mais en fait, je vais prendre pour tout la Naudière, là, la semaine de relâche est pas toujours en même temps. Donc, ça aide hein, l'économie d'avoir deux semaines distinctes, une année sur deux, pour l'achalandage de nos services de proximité, de nos équipements récréotouristiques. Mais là, je vais mettre mon chapeau de préfet de la MRC Matawinie pour vous parler de l'impact qu'a la semaine de relâche sur le système économique de la Matawinie. Bien sûr, c'est un moment de pause en famille, bien mérité. Ça fait du bien, le soleil est un peu plus fort. On a eu un hiver très rude cette année en plus, donc je suis certaine que tous les jeunes et les moins jeunes sont très contents d'avoir une semaine de relâche, mais ça génère un bel achalandage en Matawinie pour nos municipalités qui déploient plein d'efforts là pour faire plaisir aux familles. Les patinoires, c'est pas toujours le cas à la semaine de relâche. Parfois, les patinoires sont terminées. Mmh. Donc, les patinoires, des cinémas qui sont organisés dans les centres communautaires, des journées ou des après-midi de jeux de société. Donc, vraiment, là, pour les jeunes et les moins jeunes, les villégiateurs comme pour les résidents permanents, il y a plein de choses que les municipalités mettent en place. Mais surtout, nos quatre centres de ski, nos centres de glissade, les parcs régionaux, la forêt Waro, le chute à bulles, les sèches-chutes, à Saint-Michel-des-Saints, le lac Taureau. Il y a plein de choses à faire, du ski de fond, de la glissade, de la raquette, du plein air, vraiment pour se ressourcer. Et ça, l'achalandage dans nos commerces, les épiceries, les dépanneurs, les stations-service, les petits cafés, ça, c'est des impacts directs aussi pour nos restaurants, les micro-brasseries.
Oui, pourquoi pas dans cette semaine de relâche-là, se faire un souper au restaurant en famille. Hein? Souvent, on n'a pas le temps de s'arrêter. Puis, ça donne un congé à tout le monde d'aller au restaurant.
Oui, oui, ça donne un congé certain aux parents. Mais, tu sais, au-delà de tout ça, de ces activités-là qui sont organisées, l'augmentation de l'achalandage, ça contribue à maintenir des emplois saisonniers de qualité et même les permanents. Ça soutient la vitalité de nos villages. Et au-delà de tout ça, il y a un effet structurant aussi parce qu'une période, cette période-là permet à plusieurs entreprises d'améliorer leur rentabilité annuelle, de consolider leur équipe de ressources humaines, puis d'investir dans leur infrastructure. Donc, pour une région comme la nôtre, où le tourisme de nature occupe là, une place vraiment stratégique, chaque saison forte est très importante.
C'est après le temps des fêtes, il y a toujours un creux.
Ouais.
Et on dirait que la semaine de relâche, là, ça relance les affaires économiques.
Exactement. Puis ça, c'est vraiment, il y a un engouement hein, pour l'achat local là, actuellement. Puis ça fait en sorte que ça le maintient. Tu sais. Les visiteurs ils peuvent découvrir nos artisans, nos producteurs agroalimentaires. C'est incroyable tout ce qui se passe en Matawinie. Là, et sans compter, bien sûr, nos entreprises récréotouristiques qui sont vraiment la base de tout ça. Là.
Et à compter d'aujourd'hui, je ne vous l'apprends pas, je suis certain, mais c'est les sucres qui commencent.
Oui, ça aussi, c'est une autre période effervescente en Matawinie. Et ça, là, les sucres, ça apporte l'espoir. Hein?
Ah oui, vous trouvez, vous? Oui, l'espoir du beau temps, oui, je suis d'accord avec vous.
L'espoir du beau temps, puis aussi des festivités, hein, parce qu'au sucre, on y va en famille, en gang, comme on dit, pour se sucrer le bec. Et ça aussi, il y en a beaucoup en Matawinie. C'est une économie intéressante et très structurante aussi pour le dynamisme économique de toute la Matawinie. Donc, on continue d'encourager nos entreprises locales. Venez nous voir, puis j'espère vraiment vous croiser quelque part sur la route en Matawinie.
Merci, Isabelle.
Ça me fait plaisir.
La MRC Matawinie vous a présenté « Entreprendre en Matawinie ». Retrouvez Isabelle Perrault chaque premier dimanche du mois dans Lanaudière et compagnie.
Lanaudière et compagnie. Agriculture.
En fait, c'est de la série culture que je veux vous parler. Écoutez, savez-vous combien il y en a des producteurs, des producteurs acéricoles dans la Naudière? 190 entreprises acéricoles, c'est pas rien. Il y a 870 589 en taille. C'est ça, c'est 3,4 millions de livres de sirop d'érable. Je vous en parle parce que c'est commencé, le temps des sucres. Ça génère 11,7 millions de dollars. Au Québec, là, il y a 13 500 producteurs et productrices acéricoles et ça donne ça 12 600 emplois. Parmi les MRC, là, Je suis sûr que ça vous intéresse. La MRC qui a plus de cabanes à sucre ou d'entreprises de séricoles, c'est la MRC Montcalm, avec 92 entreprises. Matawinie, 49 entreprises. Il y a Dautry avec 23, Joliette avec 19 et l'Assomption qui ferme le rang avec 6 entreprises. J'ai voulu parler à un responsable, pas nécessairement à une cabane à sucre en particulier, pour pas avantager personne, et je pense que c'est bien de faire ça comme ça. Alors, j'ai parlé à Guy Brault. Il est président des producteurs à séricoles de Lanaudière. Monsieur Brault, la saison va commencer. Ça amène beaucoup d'espoir pour les gens, parce que les gens se disent, on s'en va dans le bon sens. Il va commencer à faire plus chaud. Et ça amène aussi les festivités, le temps des sucres. L'industrie à séricoles dans Lanaudière, c'est une industrie importante?
L'industrie acéricole, et je vous dirais qu'elle se développe de plus en plus. Il y a beaucoup de potentiel acéricole, est développé à environ à 25 %.
Est-ce que le changement climatique, le réchauffement des températures fait en sorte que la Matawinie, que le nord de Lanaudière risque d'avoir de plus en plus de cabanes à sucre dans l'avenir?
Écoutez, c'est sûr et certain que le climat, de qu'est-ce que j'en vois, parce que je dépasse la soixantaine, est en train de nous favoriser petit à petit. Le réchauffement vient prolonger la durée de notre printemps, vient agrandir le volume de production. Fait que c'est sûr et certain que pour les 50 prochaines années, ça va être favorable.
Vous dites qu'on est seulement à 25 % de notre potentiel. Ça veut dire qu'il y a de la place pour d'autres entreprises.
Exactement. Là, en 2019, on a fait sortir le potentiel à la grandeur de notre territoire, sur terre privée et sur terre publique. Et puis, il y a une possibilité de 20 millions d'entailles dans notre région. Puis, présentement, on est entaillé aux alentours de 4 millions.
On fait du bon sirop dans Lanaudière?
Le meilleur sirop du Québec, c'est reconnu, là, vous apparterez, là, mais c'est vrai, c'est reconnu depuis longue date. On participait dans des concours provinciaux, et puis on se démarquait avec notre qualité de sirop.
Qu'est-ce qu'il y a de particulier?
Probablement, en grande partie, un sirop de montagne, un sirop qui va chercher des minéraux autres que du sirop de terre, comme on retrouve dans une grande partie du Québec.
Tenir une exploitation acéricole, ça, c'est pas juste durant la période des sucres, là, ça dure pas 4 semaines. Vous commencez vers quel moment et puis vous finissez vers quel moment?
Celui qui vit de l'acériculture comme moi et mon fils, c'est un travail qui est quasi 12 mois par année. Parce qu'à l'extérieur de la période de production, il y a la période de préparation pour notre saison. Il y a la période d'aménagement de notre forêt. Une forêt, ça se cultive comme un champ de patates, un champ de carottes. Là, tu sais, faut vraiment s'adapter à la cultiver comme il le faut, puis de s'allier des personnes qui nous conseillent.
J'ai vu que c'est du sérieux parce que je remarquais là, qu'il y a une sorte de planche avec plein de petits contenants, avec plein de sirops. J'en compte à peu près une trentaine là, devant moi. Donc, vous faites des tests de goût, vous évaluez. C'est presque chimique, votre affaire.
Écoutez, tous les barils de sirop qui sont produits, il y a des petits échantillons qui sont conservés. Parce que chaque baril est testé par la Fédération. Puis nous, ben, pour être capable de valider ce test-là avec l'expertise que l'on a, puis notre petit échantillon, puis je vous dis que ça se trompe pas gros là, du test. Fait que nous, le goût qu'on peut faire, ben ça s'allie là, parfaitement.
Et vous déterminez là, par rapport à ce que vous désirez avoir, quel échantillon vous allez travailler cette année, c'est ça?
Bien, c'est sûr et certain que vu qu'on transforme une bonne partie de la production, bien, il y a un choix de baril qui est gardé pour la transformation. Il y a un choix de baril qui s'en va au niveau de l'entrepôt de la Fédération. Puis moi, qu'est-ce qui est de ma production personnelle, ça s'en va tout au niveau de la Fédération, au niveau de l'entrepôt.
Est-ce qu'on va connaître une bonne saison en 2026? Ça, c'est la question qui tue, comme dirait l'autre.
Écoutez, moi, la seule chose que je peux vous dire de façon certaine, les producteurs qui sont prêts, les producteurs dont l'entaillage est prêt présentement, qui a un suivi dans le travail de façon très pointue, ont réussi à chaque année à s'en tirer avec une production qui est quand même bonne. Les nouvelles technologies, c'est épouvantable. Ça se gère sur le bout de notre main au téléphone.
C'est extraordinaire, non?
On a le portrait de notre érablière de façon quotidienne. On est capable de faire partir des pompes à évacuum. On est capable de vérifier nos niveaux de bassin. On est capable de faire partir même l'osmose à distance. Parce que moi, j'ai une petite érablière à Notre-Dame-de-la-Merci qui est à 50 km d'ici. Puis je la gère de random. Fait que c'est rendu tellement poussé la technologie que celui qui s'y fie, celui qui s'arrête à suivre ça de très près, il peut pas produire de sirop d'érable.
Il va bien s'en tirer.
Exactement. C'est sûr que Mère Nature a un grand rôle. Moi, je vous dirais que quand le producteur y est prêt, que son système est à point et qu'il y a un suivi très serré dans son érablière, dans son réseau de tubuleux, il réussit à s'en sortir très, très bien.
Ne reste plus, madame, monsieur, qu'à y goûter cette année. Bonne saison 2026. Eh bien, le chat est sorti du sac, madame, monsieur. Si un producteur d'une cabane à sucre vous dit qu'il y a eu une mauvaise saison, bien, c'est pas vrai. C'est le président qui l'a dit, président des producteurs acéricoles de la Naudière. Avec les nouvelles technologies, ils ne peuvent pas avoir une mauvaise année. Hein? Alors, s'il vous plaît, pas de mensonges, là.
Bonjour, c'est Kim de Joliette-Nissan. Chez nous, ce n'est pas juste des véhicules que vous trouvez. C'est une équipe qui vous accompagne à chaque étape avec des conseils clairs et un service qui fait la différence. Que ce soit pour l'entretien, vos questions ou vos besoins particuliers, Joliette-Nissan est là pour vous. Pendant l'événement Maîtrisez toutes les conditions, découvrez pourquoi Nissan est la marque numéro 1 des véhicules neufs selon J.D. Power. Venez nous rencontrer au 800 boulevard Basse de Roque à Joliette pour profiter de nos services rapides et de nos conseils d'experts. Joliette-Nissan, parce que chez nous, ce qui compte le plus, c'est vous.
Dans la Naudière, on prend le temps de s'arrêter, de respirer, de se sentir libre d'être soi. Ici, les moments vrais comptent. Ils nous ancrent, nous rapprochent et nous font avancer, ensemble, fiers de qui nous sommes et de l'endroit d'où l'on vient. La Naudière nous rassemble, nous ressemble. Osez grand, vivez grand.
Êtes-vous à la recherche du bonheur ou le cherchez-vous pour vos parents? Aux Habitations Bordelot, on croise chaque jour des centaines de résidents heureux qui affichent leur plus beau sourire. C'est certainement parce qu'on a créé pour eux un milieu de vie chaleureux, sécuritaire et dynamique où il fait bon vivre. Et saviez-vous qu'en plus, nos cuisines adaptent leur menu selon les goûts de leur clientèle? Venez nous visiter et prenez le temps de vivre. Aux Habitations Bordelot, le bonheur est là. Visitez habitationsbordelot.com.
L'embarquement pour le vol 246 à destination de Montréal est retardé de 50 minutes.
Ah, ben là!
On dirait que c'est l'heure d'Ojo.
Play Ojo? Bonne idée!
Profitez de tous vos jeux préférés comme Wolf Gold et Joker's Jewels et des jeux exclusifs que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Youhou, j'ai gagné!
Sentir le plaisir, Play Ojo!
L'embarquement commencera dès que les passagers auront fini de célébrer.
Yeah! Ouvert à tous les joueurs de 18 ans et plus, il ne s'agit pas d'un site de jeu. Veuillez jouer de manière responsable.
La Naudière et compagnie.
La Naudière et compagnie.
Michel Arnois.
CFNG.
La Naudière et compagnie. Municipal.
Eh bien, il y a deux nouvelles écoles qui verront le jour dans la MRC Joliette, l'une à Saint-Charles-Borromée et l'autre à Joliette. François Morin en a parlé au maire Pierre-Luc Bellerose.
Alors, Pierre-Luc Bellerose, deux bonnes nouvelles dans la même semaine concernant des écoles dans la région, une à Joliette et une du côté de Saint-Charles-Borromée. On va parler de celui de Joliette en particulier. C'est un projet qui était attendu quand même depuis un certain temps là, du côté de Saint-Pierre-Sud.
Oui, ben vous parliez là, de Saint-Charles-Borromée, effectivement, c'est 27 nouvelles classes. Du côté de Joliette, 23. On est sensiblement là, dans le même nombre là, d'élèves là, qui vont au-dessus de 500 là, qui vont fréquenter ces établissements. Effectivement, il y avait déjà eu un feu vert de la part du ministère. Par la suite, on avait mis les projets sur pause, là, question budgétaire. Donc, du côté de Saint-Charles-Borromée, on a déjà eu, là, du côté du ministère, Laval pour aller de l'avant. Du côté de Joliette, on est en attente de la prochaine vague d'annonces. On est quand même confiant. Mais d'ici là, nous, on a rempli notre partie là, du contrat. Si je peux m'exprimer ainsi, on le sait avec l'adoption de la loi 40. Maintenant, on est dans l'obligation de céder un terrain au centre de services scolaires lorsqu'il y a la construction, l'implantation d'une école, d'effrayer aussi tous les coûts relatifs là, aux infrastructures, que ce soit la réalisation du boulevard, le bassin de détention, les infrastructures souterraines. Donc, tout ça est à la charge de la ville. Donc, quand les gens sont heureux de voir leur compte de taxes municipales baisser, dites-vous que c'est maintenant du côté de la ville, donc c'est vos taxes municipales là, qui sont à l'œuvre pour la réalisation de ces écoles-là.
Au niveau des infrastructures municipales là, du côté de Joliette, ça pourrait monter, la facture pourrait monter jusqu'à combien?
Ben, on perd. Le terrain appartenait déjà à la ville de Joliette, donc à ce moment-là, c'est un investissement de moins au niveau monétaire, mais en termes d'infrastructure, j'ai pas le chiffre exact, mais on parle en centaines de milliers de dollars, peut-être en millions de dollars, là, quand on compte la réalisation là, de toutes ces infrastructures. Il faut comprendre aussi, dans cette entente de partenariat-là, il y a d'autres projets qui viennent là s'ajouter. Je pense notamment au bassin d'étension qui est réalisé du côté là de Thérèse Martin sur la Douceur. Donc, on vient ajouter aussi, lorsqu'on ratifie ce genre d'entente-là, de part et d'autre, on vient ajouter des éléments là pour être, je vous disais, des bons partenaires. Parce que oui, il y a une obligation légale, mais les parties, que ce soit la ville, le centre de services scolaires, bon, on est en discussion, on est en pourparlers, puis on essaie de trouver des terrains d'entente qui sont gagnants-gagnants. Donc, il y a des ajouts aussi, d'autres projets là qui sont inclus dans l'entente en question.
Et pour vos informations, les écoles devraient être prêtes pour l'année 2027-2028, septembre 2027. Par ailleurs, concernant la réfection de la rue Baudry. Écoutez, depuis plusieurs années, là, Joliette dénonce l'inaction du ministère des Transports, la MTQ, pour les portions de la rue Baudry qui sont sous juridiction provinciale. La MTQ a déjà proposé des travaux palliatifs, mais la ville a toujours trouvé ça insuffisant parce que ça ne règle pas les problèmes de sécurité de fond. La MTQ refuse d'inscrire la rue Baudry à ses travaux, stipulant que la limite de vitesse est sous le 60 km/h. C'est aberrant. Et cela revient donc à la ville de procéder. Pierre-Luc Bellerose se prononce sur le suivi du dossier.
Ben, j'ai une rencontre avec le nouveau directeur. Il y a eu une nouvelle nomination à la tête de la direction du ministère des Transports. Donc, j'ai une rencontre avec lui. Il y a des rencontres techniques qui se poursuivent. À court terme, je n'ai pas malheureusement de bonnes nouvelles ou des développements qui pourraient nous laisser croire une intervention rapide. Par contre, comme je vous l'explique, on poursuit les démarches tant politiques qu'administratives. Puis j'espère que cette rencontre-là va être constructive et fructueuse. Je laisse la chance au coureur. On a un nouvel interlocuteur au ministère. Mais tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas une direction dédiée au territoire lanaudois, ça va s'annoncer complexe, tant au niveau financier qu'au niveau des priorités, au niveau des relations aussi, qui sont parfois difficiles. Donc, on va laisser la chance aux coureurs, mais à court terme, là, malheureusement, il n'y a pas de développement positif.
Quand il parle, Pierre-Luc Bellerose, de direction régionale, c'est que la direction régionale pour Lanaudière, ça couvre deux territoires. C'est la direction régionale de Laurentide, Lanaudière, le bureau est à Saint-Jérôme. Alors, Saint-Jérôme, des fois, il se fiche pas mal de ce qui se passe à rue Baudry.
Vous écoutez Lanaudière et compagnie avec Michel Arnois.
Lanaudière et compagnie, actualité.
Écoutez, ça a fait la une du Journal de Montréal jeudi. On parle du monastère des Moniales dominicaines. Eux, ils ont bâti ce monastère-là en 1933. C'était le premier établissement fondé par cette communauté religieuse au Canada. Les propriétaires actuels, ceux qui l'ont acheté, parce qu'il ne restait plus assez de sœurs pour entretenir la patente. Donc, ça tombait, ils ne pouvaient plus s'en occuper. Alors, ils sont déménagés, puis ils l'ont vendu 250 000 $ à Jean-Claude Payet. Oui, Payet, là, lui, et André Saint-Martin. Et eux, maintenant, ils qualifient l'édifice de cancer immobilier parce que quand ils ont investi 250 000 $ ces gars-là, ils avaient l'intention de le démolir pour faire un projet résidentiel de 40 millions de $. Vous imaginez? Mais là, tout de suite après l'avoir acheté 250 000, le ministère de la Culture a classé le bâtiment comme bien patrimonial. Oups! fini de développement. Ça interdisait toute démolition. Ça, c'est pas... quelqu'un dirait c'est chien, là. T'sais, bon, quelque part. Le classement a été confirmé par la Cour d'appel et la Cour suprême a refusé d'entendre le dossier en juillet. C'est devant la Cour. Il y a des propriétaires affirment avoir englouti 2 millions de dollars en frais juridiques. Parallèlement, le gouvernement a dû injecter, lui, 1 million de dollars pour des travaux de préservation. Le bâtiment est dans un état de décrépitude absolument critique. Il a subi du vandalisme, des incendies, des problèmes de contamination. Bref, écoutez, il y a des poursuites judiciaires dans le dossier. C'est pas fini, cette affaire-là. On en parle avec un des propriétaires actuels, André Saint-Martin.
Good. Alors, André Saint-Martin, donc, le dossier du monastère démonial du côté de Berthierville refait encore l'actualité. Ce qu'on constate, parce qu'on s'était parlé au début de l'hiver, ce qu'on constate, c'est que finalement, ça n'a pas progressé beaucoup, là.
Non, ça n'a pas progressé. Nous, comme tel, on veut se débarrasser de ce cancer-là. Personne n'en veut. C'est pour ça qu'on a publiquement sorti. On l'a offert au gouvernement pour 1 $. Il a refusé. On l'a mis dans les journaux. Personne n'en veut. C'est assez les dépenses. Là. C'est les deniers publics que le gouvernement dépense aussi là, pour contrer contre nous. Là.
Puis il vous force également à faire des travaux dont vous n'avez pas nécessairement les moyens de réaliser.
Ben, on n'a pas les moyens, puis eux nous ont forcé à dépenser 1 million $ pour barricader, disant avec des experts que tout était sécuritaire, puis qu'il n'y avait plus de problème, puis tout a été défait. Les gens cambriolent, les gens rentrent dedans, ils coupent les clôtures. C'est chaque jour, chaque semaine, des interventions policières, ça n'arrête pas.
Et là, ce qu'on comprend aussi, c'est que compte tenu de l'état du bâtiment, il n'y a pas grand monde qui veut rentrer à l'intérieur.
Ben non, parce qu'il y a de la contamination à l'intérieur. Fait qu'il faut que les gens se protègent. Ça prend des gens équipés. Ça prend le masque, ça prend les chaussettes, ça prend l'habit. C'est pour être déguisé pour aller à l'intérieur. C'est la sécurité des gens.
Là, on sait qu'il y a un processus qui est en cours. On s'en était parlé. On a des documents en main. C'est le tribunal administratif qui a ça, justement. Là, on connaît pas encore la date d'audience. Mais c'est parce que ce qu'on veut, c'est clairement un déclassement pour qu'on puisse réaliser le projet.
Ben, nous, ce qu'on veut, que ce soit un déclassement, que ce soit une démolition, on n'a rien contre le patrimoine. Sauf que là, c'est un endroit qui n'est pas sécuritaire. Autant les pompiers ne peuvent pas intervenir, c'est extrêmement dangereux, puis c'est question de sécurité publique. Puis on n'est pas assuré, puis c'est pas assurable. Donc, en quelque part, il faut que quelqu'un assume ses décisions.
Puis faut-il le rappeler, parce que c'est peut-être pas connu de la population en général, c'est quand les moniales vous ont vendu tout le site, incluant le bâtiment, oui, ça leur faisait un pincement au cœur, mais ils y avaient donné, et je vais me permettre le jeu de mots, leur bénédiction là pour démolir.
Oui, parce que les sœurs ont commencé en 2011-2012 à essayer de vouloir le vendre, à essayer de le céder à quelqu'un. La ville n'en voulait pas, il y a personne qui en voulait. Et les sœurs sont venues en 2018 frapper à nos portes pour dire, écoutez, nous, on est prêts avec ce bâtiment-là. On le sait que vous, si vous faites un développement, parce que le développement en arrière, on commençait dans les semaines à suivre, parce que l'acquisition avait été faite en 2017, les permis avaient été octroyés par la ville, donc son représentant était la MRC. Le changement de zonage avait été fait d'institutionnel à résidentiel et le projet partait. Les sœurs ont dit, écoutez, on vous demande une faveur, prenez-les, puis on va vous vendre... avec une maison à côté, il n'y avait rien à faire. Le bâtiment, le chauffage ne marchait plus. Les sœurs avaient eu un problème. L'eau avait gelé. Fait qu'il était vis-à-vis un bâtiment qui était comme vistus. Et c'est à cette raison que les sœurs ont demandé, s'il vous plaît, on le sait que vous allez le démolir. La ville le savait. Tout le monde le savait. Les permis ont été donnés en conséquence. Personne qui en voulait. Puis ça aurait coûté des 25-30 millions. Les études ont été faites pour essayer de rénover. Ça coûtait plus cher rénover que d'en faire un nœud, puis nous, c'était pas notre objectif de vouloir ça, fait que j'ai dit aux sœurs, nous, on n'est pas intéressés, et on a fait des vérifications pour essayer de donner les coûts, et à l'époque, c'était comme 250 000 $ enlever l'amiante et 1 250 000 pour démolir le bâtiment, ça, c'était connu de tout le monde.
À ce stade-ci, est-ce qu'il y a d'autres procédures qui sont possibles? On est obligé d'attendre les audiences du tribunal administratif?
Mais là, c'est qu'on essaie de c'est pour ça que je vous dis tantôt, il n'y a personne qui en veut. Puis nous, ce qu'on a expliqué au gouvernement, puis ce qu'on explique depuis le début, c'est une expropriation déguisée. c'est ce qui arrive. Puis le gouvernement nous force à faire une démonstration pour montrer que c'est pas une expropriation déguisée, mais avec personne n'en veut. C'était dans les journaux. Le gouvernement n'en veut pas. Le gouvernement a cherché pendant 7 ans. Ça fait 7 ans que ça dure, cette saga. Fait qu'il faut que ça arrête. Puis le gouvernement, si nous, on dépense des millions pour se battre, le gouvernement en dépense autant. Il pourrait le mettre dans les écoles, il pourrait le mettre dans les hôpitaux, il pourrait le mettre dans la ville, il pourrait le mettre à l'aréna. C'est insensé de dépenser comme ça.
En terminant, je vais vous poser une question un peu directe, là, mais quand il y a des entreprises privées qui sont obligées de dépenser des sommes considérables comme ça, est-ce que ça met justement un peu en péril là, vos entreprises?
Ben, c'est justement, cet argent-là, on pourrait le mettre ailleurs. Il n'y a personne. Moi, si on m'aurait dit que c'était patrimonial ou si on m'aurait dit qu'il n'y avait pas de possibilité de démolition, jamais on aurait acheté ça. Jamais. Sauf que là, c'est que ces millions-là, on est là. On les a remis ailleurs. Tandis que là, ça n'a rien avancé. Personne. On essaie de trouver un responsable au gouvernement. On ne peut pas discuter avec personne. Il n'y a pas de décideur.
Mais M. Saint-Martin, avez-vous demandé au monial de prier pour vous? Hein? C'est peut-être là le problème. Il vous reste juste une solution. M. Payet, M. Saint-Martin, vous allez à l'oratoire Saint-Joseph et vous montez à genoux les marches. Peut-être que ça va donner des résultats.
Venez célébrer l'arrivée du printemps à l'érablière Jean-Parent de Saint-Ambroise de Kildare. Au menu, jambon, bacon, sirop d'érable, tire sur la neige, ainsi que tous ces délicieux accompagnements qui ont fait la réputation de l'érablière Jean-Parent. Et tout cela à volonté. La grande famille de l'érablière Jean-Parent vous souhaite un sucré bon printemps. Réservation 450-753-3146. Pour plus d'informations, jeanparent.com. Apportez votre boisson. L'érablière Jean-Parent est située au 1571 route 343 à Saint-Ambroise-de-Kildare.
Les Filles du Nord, c'est pas seulement un nom, c'est une manière d'habiter notre métier.
Il y a des maisons qui ont vu pousser des enfants à coups de rire et de grandeur gravés dans les cadrages. D'autres qui ont été retapés à coups des manches retroussées d'un dimanche bien fatigué.
Quand vient l'heure de passer le flambeau, on prend le temps, comme on plie une courte pointe, cousue à la patience.
Avec ceux qui laissent un foyer derrière, on veille à ce que le fruit de tout ce qui a été bâti trouve preneur à sa juste valeur.
À ceux qui cherchent un nouveau toit, on balise le chemin pour que chaque détour ait du sens et chaque pas sa raison.
On marche aux côtés de ceux qui quittent autant qu'avec ceux qui arrivent. Le cœur pour comprendre, la tête pour guider et les compétences pour évaluer.
Les Filles du Nord, une manière de travailler
qu'on cultive avec fierté.
Les Filles du Nord, équipe immobilière et Max Prestige, 514-503-8684.
Dans la Naudière, on prend le temps de s'arrêter, de respirer, de se sentir libre d'être soi. Ici, les moments vrais comptent. Ils nous ancrent, nous rapprochent et nous font avancer, ensemble, fiers de qui nous sommes et de l'endroit d'où l'on vient. La Naudière nous rassemble, nous ressemble. Osez grand, vivez.
Son X Plus vous offre une gamme complète de produits technologiques tels que téléviseurs, systèmes audio domotiques, produits connectés et systèmes de sécurité. Recevez un service personnalisé afin de vous aider à faire le meilleur choix. Merci de choisir une entreprise locale. Son X Plus Joliette.com.
Vous écoutez Lanaudière et compagnie avec Michel Arnois.
Cette chronique vous est présentée par la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie. Voici France Chapdelaine.
France Chapdelaine, bon dimanche. Dites-moi donc, est-ce qu'il se fait encore beaucoup de motoneige dans votre coin?
Oui, c'est le fun parce qu'il est tombé de la neige cette semaine, même s'il a fait un peu trop chaud, en espérant qu'il en tombe d'autres cette semaine.
Vous allez nous parler d'une entreprise qui a un succès bœuf. Il s'agit d'Atelier Taureau.
Hein? Toujours aussi vite.
Quelle présentation!
Oui, j'ai rencontré cette semaine Philippe Bienvenue et Denis Lefebvre, oui, d'Atelier Taureau, qui fêtera dans quelques semaines ses 5 ans suite au rachat de l'entreprise de M. Bordelot, qui avait elle-même plusieurs décennies d'opérations. Ils font des portes-fenêtres, des cuisines, salles de bain, mais aussi des tables, des meubles de rangement personnalisés. Tous les projets sont réalisés dans leur atelier, sans intermédiaire, de la conception, en passant par la peinture, la finition, l'installation. Mais leur particularité, c'est qu'ils ont une garantie d'approvisionnement du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, pour les essences de bois locales, même s'ils travaillent aussi le chêne et le noyer, et ils ont leur propre moulin à scie, leur propre séchoir. Alors, c'est vraiment une fierté pour eux, puis pour nous aussi.
On peut s'assurer avec ces gens-là d'avoir des pièces presque uniques, faites avec du bois d'ici.
Tout à fait, même s'ils font aussi des choses en MDF, en mélanine, selon l'usage et le budget. Mais oui, effectivement, c'est vraiment des choses qui sont faites ici. C'est travaillé à Saint-Michel, par des gens de Saint-Michel, jusqu'à l'installation. Ils font des projets en Haute-Matawinie, notamment plusieurs à Manawan, mais ils réalisent aussi des projets partout au Québec. Ils ont même fait une porte pour une église du Nunavut.
Pas sérieuse?
Oui, vraiment. Ah ben là, je suis vraiment fière.
Écoutez, il faut prendre la porte à ce moment-là.
Vous pouvez voir leur réalisation sur le site ateliertaureau.com.
Ben voilà, on ira voir ça sans problème. Écoutez, moi je suis de ceux, malgré qu'aujourd'hui, quand on cherche quelque chose, on va toujours dans les moteurs de recherche Internet, mais moi je suis de ceux qui utilisent encore les versions papier des guides ou des répertoires des entreprises de la localité. Ça m'assure de travailler avec des gens d'ici. L'achat local, c'est important. Et vous êtes en plein recrutement pour votre répertoire de la Haute-Matawinie.
Tout à fait. C'est notre bottin téléphonique qui a changé de nom pour mieux refléter ce que c'est, parce que c'est un outil très important pour la population. Il y a encore plein de gens en Haute-Matawinie qui l'utilisent comme vous. Puis aussi, c'est le seul outil publicitaire qui reste dans les maisons, les chalets, toute l'année.
Oui, oui, oui.
Ils sont livrés dans toutes les boîtes postales de Saint-Michel, Saint-Zénon et Manawan, mais aussi directement aux portes des chalets des territoires municipaux de Saint-Michel et Saint-Zénon.
Et même s'il y a une panne d'électricité, puis vous avez plus d'Internet, au moins le répertoire, lui, ben il est disponible.
Oui, monsieur.
Non, mais quand même.
Puis donc, les gens ont jusqu'au début avril pour transmettre les informations pour la population. C'est leur numéro de téléphone qui est pas dans le bottin des pages jaunes. Ils ont déjà reçu une fiche à cet effet-là. Même si vous nous l'avez donné l'année passée, il faut le refaire cette année parce qu'on peut pas savoir si vous avez déménagé ou changé de numéro. Pour les entreprises de partout qui souhaitent faire affaire en Haute-Matawinie, qui sont déjà présents, mais qui veulent se rappeler à notre mémoire, vous pouvez nous contacter au 450-833-1334 pour toutes les informations, que vous soyez membre ou non de notre chambre de commerce. Il y a plusieurs possibilités, plus ou moins grandes, de publicité, mais la plus petite débute à 99 $ pour les membres ou 138 $ pour les non-membres. C'est vraiment pas cher pour toute la visibilité que ça offre.
C'est un incontournable, comme dirait l'autre.
Tout à fait.
La question spring de la semaine. On est rendu, on y est, Franche Chapdelaine, on est dans le temps des sucres. Et parmi toute la gamme de produits qu'on vous offre dans une cabane à sucre, lequel est votre préféré?
Difficile à choisir entre la tire et le beurre d'érable.
Ah, vous n'êtes pas dans le salé, vous êtes dans le sucré, là.
Vraiment. Et vous?
Ah, moi, j'aime tout. Le jambon, les fèves au lard, les oreilles de Christ, les pêtes de sœur, ah oui, donc, amenez-en de la tire d'érable. Moi, j'aime tout.
C'est vrai que tout est bon.
J'aime ça à ce point-là que j'y retourne plusieurs fois durant la saison. C'est ma danse sucrée qui parle. Écoutez, ça. Je vais vous souhaiter une bonne semaine, un bon temps des sucres, et on se parle la semaine prochaine.
Oui, bonne semaine à vous.
France Chapdelaine vous revient chaque dimanche avec ses nouvelles du nord de Lanaudière. Une présentation de la Chambre de commerce de la Haute-Matawinie.
Lanaudière et compagnie. Personnalité politique.
Je vous dis qu'il y a eu de la grosse pointure politique cette semaine dans Lanaudière. Écoutez, moi, je lève mon chapeau à l'équipe d'information à CFNJ. Les gens qui font un travail extraordinaire pour la radio régionale ont... Écoutez, moi, je manque de mots. Vous êtes chanceux, mesdames, messieurs. Je suis chanceux de travailler ici, dans une station qui met l'emphase sur l'information régionale. Il y en a d'autres médias dans la région. Hein, il y a un journal local, hein, de 16 pages, ou de 8 pages, ou de 12 pages. C'est vrai qu'il est tellement mince qu'on peut plus éplucher patate dessus, imaginez-vous. Il y a une radio privée, où les bulletins de nouvelles, là, ça... C'est maigre. Ils sont au régime. Écoutez, Bernard Drinville était de passage à Berthierville. Il s'est posé comme un champion de la gestion de l'offre face aux négociations qui viennent avec Donald Trump. Notre champion, oui. Voici un extrait de l'entrevue qu'il a accordé à notre directeur d'information, François Morin.
Ben d'abord, il faudrait qu'il y ait un débat d'idées, là. Moi, je mets des idées, je vous en ai parlé, là. J'ai mis des idées. Aujourd'hui, là, je rends public ma politique, là, pour l'agriculture, là. Tu sais, les agriculteurs, c'est eux qui nous nourrissent. Il n'y a rien de plus important, là, que notre capacité de se nourrir comme nation, là. Fait que moi, aujourd'hui, j'ai annoncé qu'on allait donner un coup de main aux agriculteurs, qu'on allait rembourser sur le carbone, la tarification carbone, qu'on allait alléger la réglementation. Puis moi, j'ai pris l'engagement. Je sais qu'il y en a des gens qui nous écoutent qui sont dans le domaine de l'agriculture. Moi, je prends l'engagement d'être le champion de la gestion de l'offre. C'est pas vrai que nos agriculteurs vont être sacrifiés sur l'autel de Trump. Alors, je mets de l'avant des idées sur, je vous en ai parlé, la bureaucratie, l'efficacité de l'État, la santé, l'immigration. J'ai proposé un droit acquis.
C'est-à-dire que vous avez reconnu Bernard Drinville, candidat à la chefferie de la CAQ. On aura son opposante, Christine Fréchette, dans quelques instants. Mais la même journée que Bernard Drinville est venu à nos micros, Charles Milliard était le conférencier invité à Terrebonne devant la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins au club de golf Le Mirage. Voici donc un extrait de sa conférence où il est question du programme Expérience Québec.
Le problème avec le programme d'expérience québécoise, c'est le fait qu'on dédie notre parole. Puis moi, j'ai un grave problème avec ça. Donc, on a fait des kiosques à l'international, le gouvernement du Québec. On est allé dans le Maghreb, on est allé en France, on est allé partout. Et avec notre kiosque du Québec, là, avec le bonhomme carnaval, le stade olympique, puis là, on a dit aux gens, venez-vous-en ici, venez étudier, venez travailler, on a un milieu de vie intéressant pour vous. Les gens viennent ici, la plupart parlent déjà français, en passant, sont intégrés, font venir leur famille, et puis là, un bon matin de novembre, apprennent que, ben finalement, vous savez quoi, on regarde les sondages, puis on voudrait rejouer une petite carte identitaire, donc retournez donc chez vous. Ça n'a aucun sens. Qu'on soit péquiste, caquiste, n'importe quoi, solidaire, libéral, il faut vraiment mettre un terme à cette iniquité-là qu'on a au Québec en ce moment. Et moi, je demande d'ailleurs au premier ministre Legault de faire ce qu'il a déjà fait dans les 7 dernières années, parce que oui, il y a plein de qualités, notre premier ministre actuel, dont celle d'être capable de changer d'idée puis de reconnaître des erreurs. Alors moi, je l'invite dans les prochaines semaines à changer son fusil d'épaule, à se ranger derrière les deux candidats à sa succession et à renverser cette situation-là et en donnant une clause grand-père. Et c'est comme ça qu'on va, entre autres, aider nos entrepreneurs.
C'était Charles Milliard, le nouveau chef du Parti libéral. Puis vendredi, Christine Fréchette, la candidate à la chefferie de la CAQ, était à nous, studio à CFNJ, et toujours concernant le PEC, voici ce qu'elle m'a confié. Je veux parler du PEC. Beaucoup demandent, bon, évidemment, vous avez pris une position, mais elle ne sera pas effective avant la mi-avril. D'ici ce temps-là, il y a des drames humains qui se vivent un peu partout, là, dans la Naudière et un peu partout au Québec. Il ne pourrait pas y avoir moyen de convaincre votre collègue d'un moratoire pour les gens qui sont déjà installés, qui ont un emploi, qui ont un logement, qui ne demandent pas nécessairement, qui parlent français.
Bien, le moratoire qu'on demande, c'est auprès du fédéral parce que c'est eux qui ne renouvellent pas les permis de travail. Et nous, on demande au fédéral qu'il les renouvelle, les permis de travail. Donc, on met de la pression. J'ai parlé encore il y a quelques jours à des gens qui sont en position de décider au fédéral pour leur expliquer à quel point c'était important de renouveler ces permis de travail-là parce qu'on a beaucoup de personnes très anxieuses, puis des entreprises aussi, des PME, puis des organisations gouvernementales qui reposent en partie sur ces.
Alors voilà, c'était Christine Fréchette, la candidate qui est solidement en avance, il faut le mentionner, du côté de la chefferie de la Coalition Avenir Québec. Voilà qui termine cette émission. Fort, fort, il y avait du monde. Jacques Plante, un gros merci. Isabelle Perrault également. Guy Brault, président des producteurs acéricoles de la Naudière. Pierre-Luc Bellerose, monastère démonial avec André Saint-Martin, merci. France Chapdelaine, Charles Milliard, Bernard Drinville et Christine Fréchette. Merci à François Morin, Pierre Jubinville, Marie-Pierre Poulin et Marie-Pierre Beauparlant, notre collaboratrice à la production. Ici Michel Arnois qui donne rendez-vous dimanche prochain. Déjà, ça sera la journée des femmes, le 8 mars. Dans un instant, Alain Lebert et Nicolas Bellemare, le duo le plus populaire des bingos du Québec. Alain Lebert a même reçu des douzaines de demandes en mariage, de 10 par des jeunes femmes et 2 par des personnes non genrées. Alors, il vous accompagne tout en musique. pour vous mener vers le Super Radio Bingo à 10h05. Bon dimanche, mesdames, messieurs, et bonne fin de week-end.